Vous écoutez, on lit pour vous.
Le remède 100% bio aux pilules. Un texte de Sarah Champagne, paru le 13 juin 2025 dans La Presse. Ma mère reçoit chaque mois un pilulier en plastique jetable pour ses médicaments. Est-ce qu'il existe une solution plus écologique? Demande Roxane, une lectrice. Les piluliers les plus utilisés sont fabriqués avec du plastique à usage unique. En 2024, 14 millions de ces piluliers ont été distribués par l'entremise du régime public d'assurance médicaments selon des données transmises à la presse par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Leur impact sur l'enfouissement des déchets est donc énorme. Au moment où le milieu pharmaceutique se creuse les méninges pour récupérer les fioles de médicaments en plastique à usage unique, un pharmacien de quartier a trouvé une solution biodégradable. Des piluliers 100% papier, recyclables, compostables, de grade alimentaire, y compris la pellicule transparente qui permet de voir les comprimés dans le fond des alvéoles. Son concepteur, le pharmacien montréalais Noël Alexandre Bertou, a planché près de 3 ans sur son idée. Le plus gros défi a été de trouver de la cellophane transparente, écologique et résistante. Le reste consiste à changer les habitudes, dit-il. Tout le monde à qui j'en ai parlé trouve que c'est une bonne idée, poursuit-il. Les personnes âgées n'aiment généralement pas les changements, mais je constate qu'il y a une demande. Les gens veulent faire quelque chose individuellement pour l'environnement. Les petits boîtiers, à l'allure d'un calendrier, sont conçus pour les patients qui ont souvent plus de 10 pilules à prendre chaque jour. Ils permettent de bien gérer la médication matin, midi, soir et au coucher. Leur utilité chez les enfants et malades chroniques n'est plus à prouver. Noël Alexandre Bertou, le pharmacien concepteur bio, est propriétaire depuis 13 ans du comptoir de quartier Proximed, qui a pignon sur rue à Montréal depuis 100 ans, boulevard des Caries, dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce. Comme dans toutes les pharmacies, les rayons sont remplis de produits emballés dans du plastique et des emballages rigides. C'est un défi de s'en priver dans cet univers encadré par des protocoles de sécurité stricts. 50 000. Nombre de fioles utilisées en moyenne par année par une pharmacie, soit 1,6 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone, CO2. C'est sans compter 14 000 piluliers pour 730 grammes CO2. Source, maillon vert, après l'analyse d'une quinzaine de pharmacies de toute taille. Chaque semaine, lui et sa petite équipe préparent environ 150 piluliers pour des patients. Contrairement à plusieurs enseignes bénéficiant de grandes surfaces de plancher, il n'a pas l'espace pour un robot de remplissage de piluliers. Lui et un technicien préparent minutieusement, à l'aide d'une pince à pilules, chaque plateau destiné à ses clients. Il y a les pilules blanches, les roses, les vertes, et ainsi de suite, raconte-t-il. À l'aide d'un petit rouleau rappelant ceux pour coller des timbres, il a effectué une démonstration pour la presse de la technique pour apposer l'étiquette posologique. À l'essai. Depuis peu, M. Bertou a commencé à distribuer à certains patients son prototype de pilulier sous l'étiquette BioPoc. L'idée s'étend à la province grâce à la Société québécoise pharmaceutique privée Biomed Pharma, qui offre des échantillons à ses clients. Le boîtier est composé à 100% de matière cellulosique. Ce n'est pas révolutionnaire. Il reste des éléments à perfectionner. Mais c'est prometteur, affirme Mathieu Turbide, vice-président marketing chez Biomed Pharma. M. Berthoux ajoute que l'actuel pilulier à usage unique de la marque Dispil, avec des étiquettes à perforer ou peler pour prendre le médicament, est apparu il y a une vingtaine d'années. Auparavant, les dosettes en plastique rigide étaient réutilisées. C'est drôle à dire, mais autrefois, les dosettes étaient éco-responsables dans un sens. Les patients rapportaient leurs dosettes et repartaient avec la nouvelle. Quand on y pense, ce n'était pas si mal au niveau écologique. Mais il y avait plusieurs enjeux, notamment au niveau de la manipulation, de la salubrité. Plastique recyclable. Sur le marché, il existe des piluliers conçus en partie avec du plastique recyclable. Mais rien de 100% biodégradable. Sans avoir eu à en faire la publicité, M. Berthoux affirme que des pharmaciens ont spontanément accepté de tester son pilulier vert, même s'il coûte quelques cents de plus. Des demandes viennent de l'Abitibi et de la Gaspésie. À contre-cœur, en Montérégie, la pharmacie Uniprix a décidé de l'offrir à quelques patients. La technicienne responsable de la préparation des piluliers à cet endroit, Noémie Noiseux-Robert, explique qu'il est impératif de réduire l'empreinte écologique des pharmacies. Il faut essayer des options de rechange au plastique, estime-t-elle. Je ne l'ai pas encore testé avec le robot de remplissage des piluliers, mais son utilisation me semble très efficace jusqu'à maintenant, témoigne-t-elle. On va sonder les patients dans les prochaines semaines. Notre clientèle demande des mesures plus écologiques. Ils embarquent avec le renouvellement en ligne, avec des sacs réutilisables. L'entreprise Maillon Vert accompagne des entreprises et des pharmacies dans leur virage éco-responsable en les aidant à intégrer le développement durable. Son président et fondateur, Marc-André Maillot, rappelle qu'une pharmacie éco-responsable, ce n'est pas juste une affaire de recyclage. Il estime que l'industrie prend conscience progressivement du virage à prendre dans un contexte très réglementé. On a trop longtemps cru que le virage vert en pharmacie était incompatible avec les exigences du milieu, souligne-t-il. Pourtant, ce qu'on voit sur le terrain, ce sont des équipes engagées, prêtes à faire mieux pour leurs patients, leur personnel et leur quartier. Les pharmaciens ont juste besoin des bons outils pour passer à l'action. C'était le remède 100% bio aux pilules. Un texte de Sarah Champagne, paru le 13 juin 2025 dans La Presse.
Donald Trump a besoin d'eau et il le sait. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir. Longtemps tenue pour acquise, l'eau pourrait se trouver au cœur des négociations à venir entre le Canada et les États-Unis. La Maison-Blanche convoite à voix haute l'or bleu de son voisin du Nord et menace en privé de déchirer les accords qui encadrent, depuis des décennies, le partage de la ressource entre les deux pays. Portrait d'un Canada en eau trouble, depuis le retour aux affaires de Donald Trump. Les Américains veulent nos ressources. Ils veulent notre eau, ils veulent notre terre, ils veulent notre pays. Plusieurs experts expriment aujourd'hui des craintes qui font écho à cet avertissement seriné tel un leitmotiv par le premier ministre Mark Carney au cours de la dernière campagne électorale. Chez nos voisins du Sud, surtout au sein de l'allégeance républicaine, l'eau est une marchandise comme une autre. explique au Devoir Yann Simon, professeur titulaire de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration et vice-recteur adjoint aux affaires internationales et à la francophonie de l'Université Laval. Je suis de ceux qui croient que l'eau sera un enjeu dans le renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le président américain ne fait rien pour calmer cette croyance. Au moment où un brasier dévorait Los Angeles à l'automne 2024, le candidat Donald Trump évoquait tout haut le fantasme d'ouvrir un immense robinet sur le fleuve Columbia pour abreuver le sud-ouest états-unien. Revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, il a aussitôt suspendu, dans le cadre d'une vaste révision de ses engagements internationaux, des discussions entamées 7 ans plus tôt pour renouveler le traité qui régit le partage du cours d'eau entre les États-Unis et le Canada depuis 1964. Cette mise sur pause, ajoutée aux fanfaronnades sur le 51e État et sur la frontière tracée à la règle entre les deux pays, augure de bien mauvais jours pour l'eau canadienne. Historiquement, la question de l'eau dans la relation canado-américaine était gérée de façon bilatérale, en toute bonne entente, et par des gens qui n'étaient pas des élus, donc qui n'étaient pas politisés, explique Yann Simon. Avec l'administration actuelle, la posture est très différente. Elle essaie de tirer la couverture le plus possible de son côté. L'or bleu canadien suscite la convoitise dans un monde confronté à une crise de l'eau sans précédent, où 4 milliards d'êtres humains manquent chroniquement d'eau et où la demande excédera de 40 % les capacités d'approvisionnement à l'horizon 2030, selon l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis n'échappent pas à cette sécheresse. Ses fleuves faiblissent, ses réservoirs s'assèchent, la superpuissance assoiffée lorgne du côté canadien, un territoire où se concentre 20 % de l'eau douce à la surface de la Terre, habitée par à peine 0,4 % de la population mondiale. Dans ce contexte, les Canadiens ne doivent plus tenir leur eau pour acquise, croit la militante et autrice Maude Barlow, cofondatrice du Conseil des Canadiens et ancienne conseillère principale en matière d'eau auprès du président de l'Assemblée générale des Nations unies. D'autant plus que son abondance relève du mythe quand 60 % de cette eau court au nord de la baie d'Hudson et en Arctique, inaccessible à 80 % de la population. Les États-Unis avaient de l'eau en abondance, mais ils l'ont gaspillée et ils ne montrent aucun signe de vouloir en prendre soin avec la guerre totale lancée contre la nature par cette administration, indique Mme Barlow. Le président regarde donc au nord et croit faussement que le Canada en a à donner. Quand Donald Trump répète que son pays n'a pas besoin du Canada, il énumère les voitures, le bois, l'acier et l'aluminium canadien, mais il ne mentionne jamais l'eau. Je suis convaincue que cette dernière sera une des monnaies d'échange exigées par Washington, parce que pour réaliser la renaissance industrielle qu'il a promise aux Américains, Donald Trump a besoin d'eau, et il le sait. Le Canada a une cible dans le dos. Le Canada et les États-Unis se partagent 13 cours et étendues d'eau, dont les lacs Huron, Supérieur, Érié et Ontario, qui concentrent, avec le lac Michigan, 84 % de l'eau douce de surface en Amérique du Nord. 30 millions de personnes vivent dans leur bassin, dont 30 % de la population canadienne. Plusieurs traités encadrent leur usage, notamment un pacte, conclu en 2005 par l'Ontario, le Québec et les 8 États américains limitrophes des Grands Lacs, pour assurer leur gestion durable. L'entente paraît aujourd'hui en péril. Le New York Times rapportait en mars 2025 que Donald Trump a annoncé, au cours de sa dernière conversation avec l'ancien premier ministre Justin Trudeau, son intention de déchirer les accords et les conventions qui encadrent les Grands Lacs. C'est là que réside la menace la plus sérieuse, estime Maud Barlow. Trump n'honore aucun accord et il voit déjà l'eau des Grands Lacs comme la sienne. Il n'a qu'un décret à signer pour que le pacte de 2005 parte en fumée. Il pourrait aussi invoquer l'état d'urgence et déployer le corps des ingénieurs de l'armée ou tout simplement pomper l'eau des Grands Lacs sans demander la permission. Le Canada défendrait ses eaux en ordre dispersé en raison d'un complexe partage des compétences. Chaque province est propriétaire de l'eau sur son territoire en vertu de la loi constitutionnelle de 1867. Mais la ressource tombe aussi sous la responsabilité des gouvernements autochtones et de plus de 20 ministères et organismes au fédéral. Ça rend la tâche de combattre les menaces américaines très difficile. Que ces menaces soient rhétoriques ou non, estime Tricia Stadnick, spécialiste en modélisation hydrologique à l'École d'ingénierie Schulich de l'Université de Calgary. Le Canada a une cible dans le dos, avertit la professeure dans un entretien publié en mai dans le magazine National, la revue de l'Association du barreau canadien. Ce n'est pas une lutte équitable à l'heure actuelle. C'est plutôt un combat entre David et Goliath. Se préparer au pire. Même si le Canada interdit l'exportation de son eau, comment arrêter une administration américaine décidée à la puiser quand l'économie canadienne est à la merci de Washington? S'interroge Maud Barlow. Les lois et les accords peuvent ployer sous le poids de pressions politiques, rappelle-t-elle. Donald Trump peut arriver à la table des négociations et menacer d'imposer des tarifs de 100% sur toutes les marchandises canadiennes tant et aussi longtemps que nous ne lui livrons pas notre eau. Combien d'emplois serons-nous prêts à sacrifier pour lui tenir tête? Le Canada ne se défendrait pas seul, pense toutefois Yann Simon. Sur les enjeux canado-américains, il y a moins d'unanimité que nous le pensons chez les Républicains. Dans les États limitrophes, les gens ont aussi l'habitude des relations bilatérales. Ils comprennent la dynamique entre nos deux pays et ils savent que s'ils utilisent mal l'eau ou s'ils en abusent, ils font mal au Canada, mais aussi à eux-mêmes. Face à une Maison-Blanche intempestive, le Canada devrait donc se préparer au pire tout en espérant le mieux, conclut le professeur de l'Université Laval. Nous avons vu avec quelle rapidité Donald Trump peut procéder quand il décide de détruire un consensus. Le président peut se lever un matin, décider que l'eau est sa nouvelle priorité et se retirer des instances bilatérales qui encadrent son partage entre les deux pays. Ces instances n'étaient pas parfaites, mais elles offraient une façon de discuter des sujets qui fâchent. Malheureusement, conclut-il, nous ne sommes plus dans un univers qui nous permet d'espérer ça. C'était « Donald Trump a besoin d'eau et il le sait », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir.
Des soirées flamboyantes à ne pas manquer à Fierté Montréal 2025. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Parmi les centaines d'activités prévues lors de Fierté Montréal 2025, certaines soirées se démarquent par leur audace, leur créativité et leur puissance festive. Voici 8 événements qui feront vibrer ou rire la métropole du 31 juillet au 10 août. chacun incarnant une facette éclatante de la culture de SLGBTQIA+. Que vous ayez envie de danser, de rire ou de célébrer avec les gens de votre communauté ou d'en découvrir une ou des nouvelles, vous trouverez certainement une ambiance pour être la version la plus libre et expressive de vous-même. Préparez-vous, l'été s'annonce résolument queer. Des gags et des paillettes, l'humour queer monte en flèche à Fierté Montréal. Préparez-vous à une soirée où les éclats de rire rivalisent avec les paillettes. Des gags et des paillettes est de retour en force cet été pour deux représentations exceptionnelles, 5 et 6 août. Ce spectacle festif promet d'être encore plus éclaté, plus inclusif et plus mordant que jamais. À l'animation, on retrouve le duo aussi drôle qu'attachant formé par Phil Lacroix et Yann Aspiro, connus du public pour leur rôle de Greg et Tom dans la web-série « Mon Bro ». Côté artiste, la scène brillera de mille feux grâce à une distribution d'humoristes locaux aussi diversifiée que talentueuse. Trana Wintour, Coco Béliveau, Charlie Morin, Andrew Coury, Portiaca, Cindy, Magali Saint-Vincent et Yasmina Léveillé offriront une série de numéros à la fois hilarants, touchants et résolument brillants. L'événement promet une ambiance survoltée, des réflexions douces-amères et un feu d'artifice de rire scintillant. Le retour éclaté de Nicky Doll avec Louche XXL. Le jeudi 7 août, le Club Soda sera le théâtre d'une explosion de glamour, de beat house et de freak en liberté avec Louche XXL, la version grand format de la mythique Louche Party signée Nicky Doll, vedette de Drag Race France. After officiel de la soirée 100% drag, cette nuit promet d'être un cabaret intergalactique où drag, musique et sensualité fusionneront. Le line-up est à couper le souffle. Detox, icône internationale, Makayla, prodige du drag canadien, J4D, performeur queer à l'univers pop fantasy, sans oublier Satiné, Isis Baga, Kuntiana, avec aux platines Ian Jackman et Paolo Aschia. Dans un club soda transformé en studio 54 futuriste, c'est la soirée pour vivre la démesure queer dans toute sa splendeur. Un temple des plaisirs sonores avec Pleasure Dome 3. Le vendredi 8 août, le mythique dôme de la SAT se métamorphosera à nouveau, cette fois en un Pleasure Dome exalté pour la troisième édition d'un événement déjà culte. Cette fête sensorielle célèbre le désir, l'abandon et la chaleur humaine, avec un alignement de DJ qui ont le pouvoir de faire fondre les murs. Le New-Yorkais Dropo ouvre les hostilités avec un mix enivrant de house, disco et techno, suivi de Karim Olin Ash, qui incarne l'héritage des musiques noires à travers une house fiévreuse et émotive. Et pour faire vibrer les racines locales, les flamboyants West End Gays livreront un set bouillant d'Italo et de High Energy, ancré dans la tradition des soirées queer montréalaises. C'est une nuit où les corps s'expriment, où la musique devient refuge et où la fête est un manifeste queer. Un trip cosmique et poilu avec le Bear Playground, perdu dans l'espace. Le dernier samedi du festival, prépare-toi à t'embarquer pour un voyage intergalactique lors de la soirée Bear Playground, perdu dans l'espace. Sous le dôme de la Satosphère, cette édition spéciale de la fameuse fête Ursine nous transporte dans un univers rétro-futuriste, où les corps en sueur flottent parmi les étoiles sur des rythmes interstellaires. La soirée s'ouvre avec la fabuleuse Barbada, artiste drag et DJ aux mille facettes, qui fera décoller la foule avec un set cosmique. Ensuite, DJ T-Don, véritable phénomène de la scène nord-américaine, prendra le contrôle des platines pour une nuit de house euphorique et inclusive. C'est une fête où le cuir, les paillettes et la tendresse se rencontrent au cœur de l'espace-temps queer. Que tu sois bear, loutre, chaser ou simple curieux, curieuse, tout le monde est le bienvenu à bord. clôturé Fierté Montréal 2025 en apothéose avec l'After Tea Dance. L'After Tea Dance propose une nuit de pure décompression et de liberté sur la piste. Après le Mega Tea Dance, on garde l'élan, on augmente le volume et on laisse la magie opérer jusqu'aux petites heures. Trois figures phares de la scène queer électronique vous guideront dans un voyage sonore sans retour. DJ Poon, résidente de l'Underground montréalais, elle injecte ses sets de techno, house et électro avec des vibrations psychédéliques, des perles vintage et des grooves ludiques. Préparez-vous à un trip aussi libre qu'électrisant. Roy Pérez. Avec sa signature deep et sensuelle, le DJ berlinois vous emmène dans un vortex de house, de disco et de techno au charme hypnotique. Néné H. Véritable tornade sonore, elle déconstruit les genres avec audace. Entre techno brutal, ghetto house et influence Swana, ses performances sont aussi politiques qu'envoûtantes. Et aussi Supernature volume 2. Supernature revient le 31 juillet au Club Soda, avec une seconde édition électrisante du plus grand battle de Wacking au Canada. Attendez-vous à des battles enflammés, des DJ sets en transe et des performances déchaînées. Catherine Levac est invitée, l'été de ma fierté. Humoriste incontournable de sa génération, Catherine Levac a eu envie de bonifier son spectacle en y ajoutant la présence de quelques amis, au Théâtre Maisonneuve le 1er août. Techno. Techno, le samedi 9 août à la SAT, offrira l'expérience rave queer à la québécoise. Imaginez un entrepôt des années 90 mêlé à une dystopie cyberpunk, mèche, métallique, cuir et néon. Liste des événements. Supernature volume 2, jeudi 31 juillet, 22h, Club Soda. Catherine Levac est invitée, l'été de ma fierté, vendredi 1er août, 22h, Théâtre Maisonneuve. Des gags et des paillettes, mardi 5 août et mercredi 6 août, 19h, Le National. Louche XXL, jeudi 7 août au Club Soda. Pleasure Dome 3, vendredi 8 août à la SAT. Bear Playground, perdu dans l'espace, samedi 9 août à la SAT. Techno, samedi 9 août, 22h, espace SAT. Laughter Tea Dance, dimanche 10 août au Sainte-Catherine Hall. Info, fiertémontréal.com. C'était des soirées flamboyantes à ne pas manquer à Fierté Montréal 2025. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.